que le docteur Castagny nous a introduit à l'accompagnement du soir de la vie sous l'angle médical, Marie, sous l'angle philosophique et en particulier la question du temps. Moi, je vais essayer de l'aborder sous l'angle relationnel. Alors, peut-être convention de langage, j'emploierai souvent le terme de proche, de aidant. Donc, ce que moi, je mettrais sous le terme de proche, c'est la personne au soir de sa vie qui vit la vieillesse, normale ou pathologique, que docteur Castagny a pu nous en parler, et j'appellerai aidant celui qui est en situation d'accompagner. Et cet aidant, au fond, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être une soeur, un ami, mais ça peut être aussi un professionnel, un médecin, une infirmière, ça peut être aussi, bien sûr, un bénévole, une aumônerie, en hôpital, en maison de retraite, du CEM, voilà, potentiellement tout ça, en fait. Alors, il y aura trois parties dans mon propos. Première partie, c'est, je vais parler du deuil blanc. Donc je vais essayer de définir hein, le deuil blanc qui, au fond, est ce que vit l'aidant dans ces situations d'accompagnement au soir de la vie. La deuxième partie, ça sera de dire, mais finalement, de mettre des mots sur le plan relationnel, vieillir, c'est quoi. Dernière partie, bah, qu'est-ce que comme aidant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Alors, première partie, donc le deuil blanc. Ma montre, je regarde déjà ma montre parce que ceux qui ont déjà entendu le savent, je peux être très bavard. J'aime bien me cacher, mais le problème, c'est quand on me donne un micro, je peux être bavard. Je vais regarder anxieusement ma montre. Alors, première partie, voilà, le deuil blanc. Pourquoi parler du deuil blanc ? Le deuil blanc, c'est le sentiment de deuil qu'un aidant, donc c'est un sentiment de deuil, qu'un aidant peut ressentir quand il s'occupe, quand il accompagne une personne, voilà, en train de vieillir et volontiers en train de vieillir avec une maladie cognitive. Et donc, du coup, c'est le deuil, le sentiment de deuil que peut ressentir un aidant quand il accompagne un proche qui n'a plus la même présence cognitive, la même présence mentale, la même présence affective. C'est ça qu'on appelle le deuil blanc. Et donc, ce qui a disparu et dont l'aidant doit faire le deuil, c'est pas donc du proche, puisqu'il est toujours là, mais c'est avant tout la réciprocité de la relation avec ce proche. Voilà, qui peut être en incapacité ou en moindre capacité de le reconnaître ou de lui retourner en fait des manifestations visibles de liens affectifs antérieurs. Alors, ça c'est la définition, mais peut-être pour nous aider à mieux saisir de quoi il s'agit, je vais essayer de donner deux, trois caractéristiques du deuil blanc versus le deuil noir. Le deuil noir, c'est le deuil qui est quand on perd un proche. Dans le deuil noir, la personne, le proche, n'est plus physiquement charnellement. Dans le deuil blanc, la personne, le proche, est toujours physiquement présent. Dans le deuil noir, l'aidant, celui qui a été aidant, donc voilà, le conjoint, l'enfant, l'ami, est souvent entouré, en tout cas au moment du décès. Dans le deuil blanc, l'aidant est souvent, sur le long terme, souvent isolé. Dans le deuil noir, l'aidant, celui qui a été aidant, il doit faire le deuil d'une personne qui n'est plus. Dans le deuil blanc, l'aidant doit faire le deuil d'un certain type de relation, car on ne reconnaît plus son proche et que parfois le proche ne nous reconnaît. Donc l'objet du deuil n'est pas le même. D'un côté, c'est le deuil d'une personne, de l'autre, c'est le deuil d'un certain type de relation. Le défi du deuil noir, c'est l'absence. Ça, c'est à vivre. On sait probablement par expérience que là, il y a quelque chose de radical. C'est grand, c'est important pour le témoin, mais enfin, il s'agit de radical. Le défi dans le deuil blanc n'est pas celui de l'absence. C'est celui des pertes progressives, des diminutions, pour employer le terme qu'employait Dr Castagné, des diminutions progressives, justement, chez le proche. Et donc, ça veut dire que dans tous les cas, dans le deuil blanc, la personne est toujours là, et que combien même elle perd des capacités, des ressources, elle est toujours une personne à part entière, singulière, d'histoire, avec des valeurs, avec une dignité, et que cette dignité n'est pas réductible et encore moins proportionnelle à ses capacités, aux ressources qui lui restent. Et donc, si je distingue deuil noir, deuil blanc, c'est qu'en l'occurrence, dans l'accompagnement au soir de sa vie, l'aidant est dans la catégorie deuil blanc. Et donc, il y a bien un deuil à faire. Mais que ce deuil à faire, pour les caractéristiques que je viens très rapidement de mentionner, ça amène une peine, un deuil, un chagrin, des sentiments qui sont tout à fait spécifiques au deuil blanc et qu'on ne peut pas confondre avec la peine, le chagrin, le deuil et les sentiments que l'on peut éprouver dans le deuil. Un petit peu, pour moi, le matériau, finalement, qui habite la relation entre un aidant et son proche au soir de sa vie. Il y a bien un deuil, mais c'est un deuil blanc. Donc je viens là de le dire. Deuxième partie, du coup, de mon propos, Voilà, ceci étant posé au sens, c'est là-dessus qu'on va, que se vivent les choses, en tout cas que nous sommes invités à vivre et à faire vivre quelque chose, j'allais dire, deuxième partie, au fond, vieillir et accompagner quelqu'un au soir de sa vie, c'est apprendre à perdre. C'est apprendre à perdre. Je ne dis pas que c'est que ça, mais c'est ça, d'abord, humainement parlant. Et donc, le deuil blanc, comme on vient de le voir, ça désigne la réaction d'adaptation à la perte de la relation d'échange en lien avec un vieillissement normal ou un vieillissement pathologique. Alors, ce terme de deuil blanc, il a été utilisé au début des années 90 par une infirmière italienne qui s'appelait Rosette Politi. Je la note pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, et creuser un petit peu les choses. Rosette Politi, P-O-L-E-2-T-I. Voilà, pour qualifier l'ensemble des pertes que vit un aidant accompagnant une personne, un proche qui elle-même est en perte de ressources. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des deuils blancs tels que en parle infirmière italienne, politique, vraiment inaugurée, j'allais dire, cette expression. C'est une affaire de perte, bien sûr pour le proche en perte, mais aussi de perte pour le proche, pour l'aidant. Un autre nom, si vous voulez aller plus loin, que Rosette Politi, c'est Erin Malakin-Pavant. Malakin-Pavant, ou bien Pancras. Je donne ces trois noms. Voilà, si vous voulez aller un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature scientifique, là en l'occurrence plutôt sous les aspects relationnels et psychologiques, on utilise donc l'expression « deuil blanc ». On utilise aussi d'autres expressions pour dire la même chose, mais qui sont parlantes. C'est pour ça que je les mentionne là. « Deuil suspendu ». Deuil suspendu, il est là, il n'y a pas encore. Ou bien « mort sans deuil ». Ou bien « mort sans cadavre ». Vous voyez, ce sont des expressions qui sont fortes, hein, qui disent bien qu'il y a quelque chose qui meurt. Quand on accompagne quelqu'un au soir de ses en même temps, sans deuil noir, sans cadavre. Mais il y a bien quelque chose de la perte. Alors, plus précisément, c'est quoi ces pertes? Alors, il me semble qu'il y a des pertes, comme je disais à l'instant, des pertes pour chacun, des pertes pour les gens, des pertes pour le proche. Ben, ça va être que finalement, régulièrement, au fur et à mesure du soir qui avance, ça sera de constater des nouveaux déficits, une nouvelle altération, une nouvelle limite. Ça va être de perdre, par exemple, son permis de conduire sa barre, de devoir renoncer à conduire sa voiture. Ça va être de perdre son domicile, en EHPAD. Ça va être de perdre ses mots, de perdre sa mémoire, ça va être de perdre ses repères, ça va être de perdre l'équilibre, ça va être de perdre l'ouïe, de perdre la boule, de perdre des gestes d'amour, de perdre son autonomie, de perdre aussi des relations. On va perdre son conjoint, on va perdre des frères, des écoles. Voilà. Et donc ça, c'est la colonne des pertes. Et honnêtement, dans la colonne des profits, il n'y a pas grand-chose à ajouter là. Donc la colonne des pertes s'enrichit. Donc des pertes chez le proche, mais aussi des pertes chez les dents. Des pertes de projets ou de voyages qu'on aurait pu faire ensemble, qu'on a fait ensemble. Des pertes de repas partagés, des pertes d'une vie commune. Les dents, il peut perdre aussi un confident, il peut perdre une personne sur qui s'appuyer aujourd'hui. Et encore plus, il dit, je perds une personne. Demain, moi-même, j'aurais pu m'appuyer. C'est la perte parfois pour les dents de sa propre capacité à aider son proche. Ça va être aussi la perte de la reconnaissance par son proche, ou bien la perte, de la reconnaissance de son proche. Et parfois, ça peut être aussi pour les dents, et ça c'est terrible, c'est la perte du sens même de sa présence aux côtés, ou peu éprouvé. Ça peut être une expérience. Et donc, autrement dit, dans la relation entre un aidant et son proche, il y a beaucoup de pertes de différentes natures. Il y a des pertes matérielles. Peut-être des pertes d'argent. Il n'y a pas de l'évidence, il y a des aides à domicile. Peut-être qu'on va perdre aussi, de fait, son domicile, parce que la personne va être institutionnalisée. Donc, des pertes matérielles. Mais ça peut être aussi, donc, il a conjointement, de façon partagée, hein, des pertes de but, de projet commun, de sens. Peut-être des pertes d'amour, parce qu'il y a des gestes, de poser des paroles qui ne seront plus. Ça peut être aussi des pertes de l'autre. Voilà, verbatim. Je suis veuve alors qu'il n'est même pas mort. Une aidante, vous l'aurez compris, à propos de son mari. Je suis veuve alors qu'il est rude. Hein. Mais c'est aussi une perte narcissique, au sens non pas moral, mais psychologique du terme, liée au changement de rôle. J'étais sa femme, verbatim. J'étais sa femme et il m'aimait. Maintenant, je suis son aidante et il me donne des ordres. J'étais sa femme et il m'aimait. Maintenant, je suis son aidante et il me donne des ordres. Évidemment, perte très forte. Pourtant, ils le sont toujours, même au soir, ils le sont bien. Donc ça, c'est pour essayer de mettre des mots sur les pertes, mais vous compléterez ces mots avec votre... Comment se manifeste ce deuil de l'ordre? Il se manifeste, en fait, chacun à sa façon. Si on veut essayer là, de mettre des grandes catégories, on peut toujours dire qu'il y a deux grandes catégories. Il me reste 15 minutes. C'est à moi que j'adresse. Deux grandes catégories. La première catégorie, c'est on peut vivre ce deuil blanc sur un registre émotionnel. Et je vais vivre ça sous forme de déni, ou sous forme de tristesse, ou sous forme d'anxiété, ou sous forme de colère, ou sous forme de culpabilité, ou sous forme d'anxiété. Et je vivrai ce deuil blanc plutôt sur ce registre-là. Et je peux le vivre aussi sur un autre registre, là, un registre plus opérationnel. Ce que je veux dire par un registre plus opérationnel, c'est le registre de l'action. Bon, moi, je vais organiser l'action, je vais mettre un plan d'action, je vais faire des choses pour la personne. Et en fait, tout souvent, là, je schématise hein, ces deux types de réactions, plutôt en mode action. Souvent, évidemment, on investit ces deux territoires, mais pas de la même façon en fonction de son caractère, de son histoire, de psychologie, de ses forces, de ses fragilités, de son âge, ou au contraire, de vivre ça pas seul, mais avec d'autres. Donc, ces deux registres, en fait, s'inscrivent en fait, dans la réalité. Généralement, on va sur ces territoires avec toutes ces voilà, singularités. On n'investit pas ces territoires de la même façon. Puis peut-être pas au même moment. Peut-être qu'au début, on est plus dans l'organisation, puis ensuite dans l'émotion. On était plutôt dans l'émotion, ensuite dans l'organisation. Tout ça pour dire que, j'allais dire, ces deux modes de réaction, ces deux grands modes de réaction, plutôt dans l'émotion, plutôt dans l'action, ne sont pas incompatibles l'un avec l'autre. Ils sont généralement plus marqués l'un ou l'autre selon, encore une fois, grosso modo, sa psychologie. Mais autorisez-vous à vivre votre deuil blanc à votre façon. Pas, c'est bien, c'est pas bien, et puis l'autre, il réagit plutôt comme ça sur l'organisation, il n'est pas du tout notion, et puis machin. Non, mais en fait, ce clair dans le deuil blanc, on fait ce qu'on peut se juger, on peut s'évaluer, juger l'autre, évaluer l'autre, son frère, sa mère, il réagit. En fait, on vit un deuil, donc on vit qu'il est super dur, ça se raconte l'histoire. Et donc, ayons la charité envers nous-mêmes de simplement reconnaître qu'on fait juste, et qu'à certains moments, ce que je peux, c'est juste. Accueillir les émotions qui viennent à d'autres, ce que je peux, c'est être dans l'action. Voilà. Et c'est bien. Et c'est bien. Alors, du coup, troisième partie de mon propos, quoi faire ? Et dans le quoi faire, j'utilise là, dans mon interrogation, un terme d'action, un verbe d'action. En réalité, et je dis ça en souriant, il me semble qu'accompagner quelqu'un au soir de sa vie, du côté aidant, c'est une. Un passage que nous sommes invités, et j'allais dire en fait un peu contraints à faire, qui est passé du « qu'est-ce que je peux faire pour le proche » à « qu'est-ce avec lui ?» et « qu'est-ce que je veux lui faire vivre ?» Et quand je dis que c'est une invitation, c'est évidemment la formation polie, celle qu'on a envie d'entendre, mais la réalité est plus rude. On est en fait contraints à passer du « qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour elle, mon proche, à « qu'est-ce que je veux vivre ?» Et je dis contraints parce qu'à un moment donné, effectivement, une fois qu'on a fait ce qu'il y a, ben, il n'y a plus rien à faire. En disant ça, je dis quelque chose d'essentiel. C'est qu'il y a des choses à faire, du registre de l'action. Mettre en place une aide à vie, un psychiatre, prendre la bonne décision de la situation, enfin, ainsi de suite. Donc, il y a des choses à faire. Il y a plein de trucs à faire. Une fois qu'on a fait ce qu'il y a. Et c'est là que peuvent surgir la colère, enfin, en gros, mais remonte aussi là, la place spirituelle, qui est de l'ordre, justement, de la présence. C'est pour ça que je dis qu'en fait, l'accompagnement au soir de la vie nous fait passer du « qu'est-ce que je peux faire ?» pour aider l'autre, qui de fait a besoin d'aide et quelque chose, à, au fin moment donné, je veux vivre. Alors, il y a pour moi trois enjeux dans le faire et faire vivre. D'abord, s'adapter à l'évolution au soir qui tombe, au soir qui arrive. S'adapter. Et donc, tout ceci nous amène à nous contraindre à la souplesse intérieure, à la souplesse habituelle et à la souplesse. J'aime ce mot de souplesse, parce que je suis raide comme un piton. Et du coup, là, il y a quelque chose qui dit, en fait, tu dois t'assouplir, au sens de. Deuxième enjeu, c'est poursuivre le lien, poursuivre la relation. Et troisième enjeu, maintenir du sens, renouveler le sens, retrouver ou trouver un nouveau sens. C'est au sens, c'est-à-dire quoi être le conjoint, les verbatim plus tout. C'est-à-dire quoi maintenant être la route. Donc sur ces trois enjeux que je viens de poser là, hein, s'adapter, gagner en souplesse, poursuivre le lien et trouver un nouveau sens, retrouver deux sous-parties dans mon propos. Quoi faire, qu'est-ce que je vis dans la relation avec le proche, et deuxième partie, pour soi comme aidant. Alors, dans la relation avec le proche, je vais mentionner 5 points, je dis ça pour vous y retrouver, hein. C'est juste des repères, ce ne sont pas des sons, c'est juste des repères. Un, premier repère pour le proche, dans la relation avec le proche, premier repère, chercher l'avant. L'avant, L'A-V-A-N, chercher l'avant. De fait, derrière des gestes incertains, des phrases pas toujours cohérentes, un tuel, une silhouette, un pas instable, se demander quelle femme a-t-il été. Et parfois, de fait, les dommages dans le corps, les diminutions de ressources mentales, physiques sont telles qu'il est parfois difficile de faire le lien entre la personne que l'on visite, que l'on accompagne, aujourd'hui, et après. Et pourtant, quel que soit l'état de la personne, du proche que l'on accompagne, que l'on peut aider, voilà, il a été bébé, il a été enfant, adolescent, personne, elle a aimé, elle a pleuré, elle a crié, elle a joui, elle a été en deuil, elle a couru, elle a dansé, posé, elle a voyagé, elle a visité d'autres pays, elle a fait la cuisine, elle a serré des enfants dans les bras, elle a fait des grasses matinées, elle s'est tenue droit, elle a pu séduire, du désir, elle s'est en colère, elle s'est... Toutes choses, en fait, qu'on n'imagine pas quand on en reste à ce que l'on voit de son état à l'intérieur. Et donc, indispensable de se défocaliser de ce que nos sens sensoriels nous renvoient pour essayer de entrer en relation avec ce qu'est la personne dans son épaisseur, quand je dis dans son épaisseur de son... Et donc, qu'elle a été tout ça aussi. Et en fait, qu'elle est tout ça toujours. Donc, un, chercher l'avant. Deux, chercher les capacités. Effectivement, avec tout mon propos était centré sur les pertes. Mais en fait, n'oublions pas ce qui est en creux des pertes, eh bien, il reste des capacités, il reste des facultés. Et donc, valoriser ces facultés qui demeurent encore. Voilà. Le proche possède encore de l'humour, alors vivez avec elle. Si elle est capable de se réjouir, alors cherchez à vous réjouir avec elle. Si elle a encore goût pour des gourmandises, eh bien, dégustez-en avec elle. Si elle aime que vous le caressez, et point dessus. Là aussi, ne nous laissons pas enfermer par les pertes. Ne nous laissons pas enfermer par les pertes, au risque d'oublier de passer totalement à côté des facultés, des ressources qui demeurent encore, qui sont aussi et d'abord les lieux de la rencontre et les lieux de joie. Et quand Marie nous parlait tout à l'heure de la plénitude, en fait, c'est aussi dans ces ressources demeurent qu'il peut y avoir quelque part un peu le lieu, l'espace où cette plénitude peut-être peut trouver, j'allais dire, un espace. Troisième, donc chercher l'avant, chercher les capacités. Troisième repère, montrer de la compréhension envers elle. Quand je dis montrer de la compréhension, en fait, je veux là exprimer deux choses. La première, c'est se mettre au pas. Marine citait Christian Gobin. Il a dû apprendre à se mettre au pas, Ça, c'est quelque chose qui est super fort. Alors, évidemment, c'est... Mais en disant ça, je dis une deuxième chose, hein, dans montrer de la compréhension envers elle, c'est ne pas nier la réalité. Et ne pas nier aux proches, finalement, ce qu'elle est en train, le soir dans lequel elle est en train de rentrer. Et donc, au point de vue, c'est éviter les non, mais tu verras, ça va s'arranger, c'est qu'un petit trou de mémoire, ça va passer. Je pense, en tout cas, que ce n'est pas rendre un cerveau contraire, en entrée, là, qu'on comprend. Je crois que, en tout cas, surtout manifester que j'ai le désir de comprendre. J'ai le désir de comprendre, en fait, le soir dans lequel tu rentres. Et le soir, il ne va pas passer. Le soir, tu es en train de. Et moi, je vais essayer comme je le peux. Quatrième repère, persévérer dans la communication. Persévérer dans la communication. Communication au sens de relation. Le docteur Castagnier, voilà, il a déjà introduit tout à l'heure, hein, quand vous parliez d'être attentif aux capacités sensorielles, hein, donc visuelles, auditives, gustatives. En fait, c'est ça la mot. C'est-à-dire en utilisant, persévérer la communication, en utilisant les éléments du monde du proche et de ce que le proche aime. Si elle est dans un monde qui est, voilà, où elle est beaucoup dans son village d'enfance, ou dans la cuisine, ou, eh bien, essayons de nous approcher de son monde à elle. Essayons de nous rendre présents à elle. Et si elle est, voilà, dans telle période de sa vie, majoritairement, ben super, ça sera l'occasion de faire venir. Parler, toujours dans la même catégorie, parler en face à face. Hein, essayer d'être dans le contact visuel et en accompagnant les paroles de gestes. Là aussi, pour, il n'y a rien de magique, ce n'est pas une solution, mais juste que ça va aider, ça va favoriser. Voilà, utiliser avec respect et délicatesse le toucher, la caresse, je dis bien sûr avec respect. Et puis, peut-être avoir la délicatesse de ne pas corriger les erreurs. Non, mais tu dis ça, mais non, mais c'était pas cette année, ça c'est pas... Non, mais honnêtement, c'est pas pour te contredire, mais ce que tu dis, c'est... bon, voilà. Non, mais je sais, bon, t'as l'âge que t'as, enfin, quand même. Non, mais je pense un peu le trait, vous voyez, mais avoir cette délicatesse de ne pas corriger les erreurs, en fait, le but, c'est... On s'en moque d'avoir les erreurs. Alors, ce qui compte, c'est d'être en vrai. D'être toujours en vrai. D'être encore en vrai. Et de trouver les chemins pour cela. Et je pense que ça n'est pas en corrigeant les erreurs que ça peut me tenir ainsi près d'elle, ça m'imposer. Et puis, cinquième repère, me mettre dans une position où j'ai à apprendre. De fait, comme aidant, je me retrouve, en accompagnant un proche le soir de cette vie, à devoir, si elle perd beaucoup de choses, moi, je perds aussi comme aidant. Et j'ai une opportunité, c'est d'apprendre à entrer en relation. C'est d'apprendre un type de présence pour lequel je ne suis pas du tout. Donc là, il va me falloir apprendre. Donc, ça veut dire que j'ai un potentiel à développer. Potentiel, je dis deux choses. Alors, potentiel à développer, je dis que c'est à apprendre à développer. Potentiel, ça veut dire qu'en fait, j'en ai les ressources, simplement, en fait, je ne les connais pas, je ne les ai pas encore mobilisées. Sauf si j'ai de l'expérience, de l'entraînement, etc. Sur ce cas-là, j'ai... Mais en fait, j'ai des compétences, j'ai de nouvelles compétences à acquérir. Et ça, c'est important de le poser dès le départ. C'est pas simplement l'autre qui est plus capable de rien. L'autre, c'est à moi, j'ai des choses à apprendre. Et ça s'apprend. En fait, en même temps, c'est, en disant ça, pour le coup, c'est plein d'optimisme. Et ça renvoie à la souplesse dont je parlais tout à l'heure. Si je considère que moi, j'ai pas grand-chose à apprendre, parce que moi, grosso modo, ben voilà, je suis soit dans la posture du professionnel, soit de l'enfant, soit voilà, du bénévole, formé, encadré, supervisé, tout ça, ben moi, je suis dans mon monde, en gros, de... et tant mieux, parce que là, je vais pas me mettre dans une chose à apprendre. Or, l'accompagnement d'une personne de sort me contraint, là aussi, à reconnaître que, quelles que soient mes solidités, il faut que j'apprenne. Je redeviens, non pas un enfant, mais un apprenant. Donc, chercher l'avant, chercher les capacités qui sont encore là, montrer l'inconscient, persévérer dans la communication, la relation, et me mettre dans le... Et puis, je terminerai pour les 5 minutes qui me restent sur, quoi faire pour soi comme aidant. Donc, petit repère, là aussi, ça n'a rien de magique, ce sont juste des repères. Parce que comme aidant, encore une fois, ça nous met dans une cycle de deuil. Donc, premier point, et ça c'est vrai d'autant plus là pour les aidants qui sont de la famille, je pense aux joints, aux frères, aux sœurs, aux enfants, c'est essayer de quitter le « ou » pour être davantage dans le « est ». Je m'explique, dans le « est », je m'explique. C'est que de fait, être accompagné d'une personne qui est au soir de sa vie, en fait, ça nous met naturellement dans une position où je me dis « il va falloir que je choisisse entre plusieurs options incompatibles entre elles ». Entre plusieurs options contradictoires. Exemple, je dois prendre soin de mon proche, moi je passe après. Donc là, les deux options, c'est prendre soin de mon proche, prendre soin de les deux sont pas. Ou bien, on va dire, je suis son aidant et je ne peux pas être à la fois son aidant et son fils. Mais ça tient, et là aussi, il ne s'agit pas de se juger, c'est juste que la brutalité de la situation est telle, le processus de deuil, de perte est tel que. Ça me paraît difficile, en fait, de faire coexister « je suis encore son enfant » et de fait, ça n'est pas simple. Donc, premier point, c'est ne pas se laisser enfermer dans des choix, des options qui apparaissent, des places, en fait, qui apparaissent totalement incompatibles. Donc, concrètement, je peux prendre soin de mon proche ou bien de moi-même. Peut-être que je peux essayer de réfléchir en me disant « comment est-ce que je peux faire pour à la fois prendre soin de mon proche et en même temps de moi-même » plutôt que de dire je suis sa fille et donc je ne peux pas être son aidante, comment est-ce que je peux être un petit peu son aidante tout en restant sa fille. Plutôt que de dire finalement je peux aimer mon proche comme il est maintenant ou bien avoir la nostalgie de ce qu'il était, comment est-ce que je peux à la fois aimer mon proche exactement comme il est aujourd'hui tout en assumant le manque et la nostalgie. Vous voyez, je formule ça sous forme de question. Hein, comment je fais pour essayer de ne pas, en gros, me cliver entre un avant et un après. Deuxième repère, c'est quand on est en situation aidant, parler à des professionnels de l'écoute. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, j'ai commencé mon propos par là, on vit un deuil. Et je l'ai poursuivi en disant, il y a des pertes pour tout le monde, et pas beaucoup. Donc, parler à des professionnels de l'écoute pour exprimer son vécu, pour mettre des mots sur sa douleur. Des mots qui sont cette douleur qui est souvent confuse, parfois contradictoire. Et tout à l'heure, ça peut être du déni. Mais non, mais ça va aller bien ça va passer. Ça, voilà. De la colère, des colères contre elle, contre le proche, contre moi, contre Dieu, contre l'institution. De la culpabilité, ça peut être aussi de l'envie de s'isoler. Ça peut être dans l'anxiété, de l'anxiété pour l'avenir. L'avenir du proche ou pour son propre avenir. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'épuisement, des insomnies, des pleurs inhabituelles. Point de suspension, chacun vit ça, encore une fois, comme il peut. Mais là, effectivement, j'allais dire, aller consulter, comme longtemps, pas longtemps, peu importe, mais ne pas rester seul, des professionnels de l'écoute. Et j'ajoute que l'intensité de la douleur n'est pas nécessairement liée au degré de dépendance du proche. L'intensité de la douleur pour l'aidant n'est pas forcément liée au degré de dépendance du proche. Là, ça dépend sur le facteur personnel. Et donc, ça peut être accompagnateur spirituel, retraite, s'ouvrir, confier, reposer. Troisième repère, parler à des professionnels de la gériatrie. Pourquoi ? Pour mieux comprendre rationnellement le processus du soir qui avance. Pour comprendre médicalement, psychiatriquement, neurologiquement, ce qui est en train de se passer. Pour nous aider à quoi ? Pour nous aider à rentrer dans la réalité, à sortir un peu du déni. Mais peut-être aussi pour limiter un petit peu l'envahissement par l'anxiété qui va faire imaginer les tableaux, les pires, voilà, dans les deux mois qui viennent, etc. En gros, prendre de l'information auprès des gériatres, des professionnels, pour m'aider davantage à ancrer, nous allons vivre ensemble, dans la réalité. quatrième repère, parler à des pairs et à l'IRS. Et à cet égard, les associations, vous avez cité Alzheimer, il y en a d'autres, hein, mais parler à des pairs, c'est partager. Donc c'est porter ensemble. Je suis pas seul à vivre, parce que j'ai mon isolement, de mes impasses, peut-être. Cinquième repère, conserver un tissu relationnel. Veillez à ne pas m'enfermer. Le deuil blanc, ça peut m'amener à l'enfermer. Conserver un tissu. Et enfin, prendre soin de son corps. Pas facile quand on est aidant pour des tas de raisons, de culpité, de culpabilité. Donc si je résumais, puisque là ça fait 30 minutes, si je résumais, je résumerais en quatre mots, information, organisation, émotion. Information, c'est-à-dire s'informer en dur sur les aspects neuropsychologiques, neurologiques, de ça se passe comment soi, ça se passe comment la vieillesse. Organisation, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses financières, c'est organisationnel, c'est tout ça. Émotion, parce que vivre du deuil blanc, un deuil blanc, bah, émotionnellement, on ne peut pas ne pas vivre ça. Je dis ça pour son sur le mode. Moi, j'assume. Tout ça, c'est pour les faibles. Je leur souhaite de devenir faibles, entre guillemets, pour vivre réellement. Je dis ça pour accomplir. Ils sont tellement blindés qu'une fois que le deuil blanc est achevé, le noir, vivez les choses. Assumez-vous. Et donnez-vous un cadre en même temps pour les relire, pour les poser, pour faire les. Et quatrième mot-clé, le souffle. Comment trouver? Comment retrouver? Et je termine, en fait, ce propos par une question qui, pour moi, en tout cas, peut traverser. Peut-être en élégant. De quoi ai-je besoin pour que la tendresse, de quoi ai-je besoin pour que la tendresse est dans mes mains?